Bonjour, bienvenue à Arrêt sur le Monde. Ici Frédéric Mérand, je suis professeur de sciences politiques, directeur scientifique du CERIOM et votre animateur. Aujourd'hui à l'émission L'Inde, de crise en crise.
En septembre 2020, le gouvernement indien de Narendra Modi impose une réforme agraire de grande envergure. Une nouvelle révolution verte venue remplacer celle des années 60. Suppression des protections gouvernementales pour les agriculteurs et fin des prix minimums pour les récoltes. Les agriculteurs sont furieux. Ils sont des dizaines de milliers à protester depuis et ne sont pas prêts d'arrêter. Il faut dire que le secteur agricole est en crise. Près de 70% des 1,3 milliard d'habitants dépendent de l'agriculture pour vivre et se nourrir. Mais le secteur ne représente que 15% du PIB du pays et a du mal à attirer les investisseurs. La production n'est plus aussi rentable qu'avant la libéralisation de l'économie en 1991. Le modèle de croissance indien n'est pas un modèle de croissance qui crée de l'emploi. En Inde, le Bureau national des dossiers judiciaires a recensé plus de 10 000 suicides d'agriculteurs en 2019. Cette crise sociale et économique n'est pas la seule qui bouleverse le pays. L'Inde, démocratie la plus populeuse, avait fait jusqu'alors figure d'exception dans une région où les dictatures sont encore monnaie courante. Mais, depuis la victoire en 2014 de Narendra Modi aux élections du Lok Sabha, la Chambre des représentants en Inde, la démocratie s'affaiblit. L'Institut VDM, Varieties of Democracy, a sorti un rapport en 2021 sur l'état de la démocratie dans le monde. Constat, l'Inde est rétrogradée au rang d'autocratie électorale. Cette dérive autocratique a de nombreuses conséquences. Pression sur la société civile, répression des minorités, faiblesse croissante des institutions, suppression des contre-pouvoirs, censure des médias. C'est dans ce contexte qu'est née la répression contre le monde académique. Résultat, on assiste à l'édification d'un pouvoir autoritaire qui cherche à rendre inaudible et invisible toute forme d'opposition. Le Premier ministre Modi va aller jusqu'à rompre avec la vision d'égalité culturelle inscrite dans la Constitution indienne. Ancien membre de l'organisation pro-hindou Rashtriya Sewa Sevak Sangh, RSS, il va mettre en place des politiques discriminatoires à l'égard des minorités. C'est ainsi qu'en 2019, près de 2 millions de personnes, principalement des musulmans de nationalité indienne dans l'état d'Assam, dans le nord-est du pays, sont exclus de cette vision d'égalité, pourtant inscrite dans la Constitution. Cette crise identitaire a des racines anciennes, mais semble être ravivée par les politiques d'un gouvernement nationaliste hindou. Enfin, la crise sanitaire liée à la pandémie de la Covid est venue exacerber les tensions. Au printemps 2020, l'Inde avait mis en place un confinement très strict. Un des pays les plus populeux du monde a été mis sur pause. Fragilisant l'économie du pays, accentuant les inégalités et mettant en lumière la dérive autocratique du gouvernement. La première vague de la pandémie avait fait plus de 100 000 morts pour 9 millions de cas. En avril 2021, le pays dénombre plus de 160 000 cas quotidiens et le nombre de morts a presque doublé, passant à plus de 170 000.
Pour nous éclairer sur les différentes crises qui secouent l'Inde, nous recevons aujourd'hui un ami du CERIOM, Gilles Vernier, qui est professeur de sciences politiques à l'université Ashoka, où il est également co-directeur du Trivedi Center for Political Data. Bonjour Gilles Vernier, bienvenue à Arrêt sur le Monde.
Bonjour Frédéric, content d'être des vôtres.
Alors, l'Inde était jusqu'à récemment décrite comme la démocratie la plus populeuse du monde, mais une régression démocratique est en cours avec la montée de la censure, la fragilisation des institutions démocratiques. Quelles sont les causes de cette régression démocratique? Quels en sont les symptômes?
C'est vrai qu'à partir de 2015-2016, on a vu l'Inde baisser dans la plupart des indices qui mesurent la santé de la démocratie de par le monde. Des instruments comme VDM, l'Economist, le Politicatre ou Freedom House. Et ces indices, déjà à l'époque, citaient des atteintes aux libertés civiles, les violences contre les journalistes, les violences contre les minorités. Et ce qu'on voit 5 ans plus tard, en 2020-2021, c'est que ces indices observent une nette aggravation de la situation en Inde sur l'ensemble de ces sujets. Mais il y a une chose en particulier qui a changé, c'est que l'Inde baisse aussi maintenant sur les indices de démocratie électorale, ce qui est nouveau. L'Inde, dans le monde post-colonial, se distingue par la résilience de sa démocratie électorale, malgré une grande pauvreté, de profondes inégalités, une culture de violence à l'encontre des femmes, des minorités. L'Inde est malgré tout parvenue à organiser, au cours de 60 ans, 17 élections générales, et des centaines d'élections régionales de manière libre et équitable, avec des transitions pacifiques du pouvoir. Aujourd'hui, on note que les conditions d'exercice des élections en Inde ne sont plus aussi équitables qu'avant. Le parti au pouvoir, le BJP, un parti nationaliste hindou, concentre 90% des donations privées faites aux partis politiques. Il instrumentalise les agences de sécurité de l'État et le fisc pour attaquer ses adversaires. Il institutionnalise davantage l'opacité du financement des partis politiques par un système de bons électoraux qui permet de faire des donations aux partis de manière anonyme. Anonyme pour le public, mais pas pour les partis, qui dès lors peuvent extorquer les entreprises et les individus qui ne font pas de donations. Ceci dit, si ces indices portent la responsabilité ou pointent le doigt vers le parti au pouvoir, ce sont ces indices aussi couvrent de nombreux autres facteurs qui contribuent aussi au déclin démocratique de l'Inde. Faiblesse de l'opposition, faiblesse des institutions, notamment le judiciaire, le parlement, qui ne jouent pas leur rôle de contre-pouvoir. Faiblesse des médias aussi. Certains tentent de font leur travail avec grand courage, mais ont de nombreuses limitations. Et au fond, on vit une période en Inde qui évoque une autre période autoritaire, celle de l'état d'urgence de 75-77 sous Indira Gandhi, où le déclin démocratique tient autant à la présence d'un leader populiste et autoritaire, à l'époque c'était Indira Gandhi, qu'à la faiblesse des institutions, qui ne se sont pas vraiment opposées à son autoritarisme. Et donc le déclin de la démocratie en Inde relève d'une responsabilité collective, même si certains sont évidemment plus responsables que d'autres, et notamment ceux qui, au pouvoir, jouent la carte de la polarisation religieuse à des fins électoralistes.
Peut-on parler de démocratie illibérale comme en Hongrie ou en Turquie, voire de démocrature comme en Russie aujourd'hui en Inde?
Alors, la nomenclature utilisée, la nomenclature de choix utilisée est celle de la démocratie autoritaire, ce qui revient à peu près à cela. Ça indique un régime politique démocratique, mais de façade, et dont la démocratie électorale ne se traduit pas en gouvernance démocratique, c'est-à-dire en respect des normes démocratiques dans l'exercice du pouvoir. Au nom d'une majorité, simple obtenue au Parlement avec une minorité de voix aux dernières élections, le parti nationaliste hindou au pouvoir instrumentalise l'État, ses ressources à ses fins politiques, sans aucun égard aux normes démocratiques. Qui veulent par exemple qu'on fasse attention au judiciaire, que l'on fasse attention à l'opposition, que l'on n'utilise pas, que l'on n'instrumentalise pas les rouages de l'État contre les adversaires politiques, etc. etc. Et donc l'Inde se retrouve bien sur cette trajectoire, oui.
Alors, vous l'avez dit, le BJP est un parti nationaliste hindou, le parti de Narendra Modi, mais c'est un parti qui gouverne un État, l'Inde, une république qui, selon sa constitution, est démocratique, socialiste et laïque. Évidemment, la laïcité a un sens différent en Inde qu'en France ou même au Québec, mais comment est-ce qu'on doit envisager cette question de la laïcité aujourd'hui en Inde sous un gouvernement nationaliste hindou?
Pour commencer, il faut comprendre de quoi on parle. Donc, la laïcité à l'indienne, ce qu'on appelle le sécularisme, ça relève d'un modèle très différent du modèle français ou du modèle québécois, qui repose sur un principe strict de séparation de l'Église et de l'État. So, pour commencer, l'Inde a de nombreuses grandes religions, et la première d'entre elles, l'hindouisme, n'est pas constituée en Église. Ensuite, la question de la laïcité en Inde se confond un peu avec celle de la protection des minorités. Et donc, le modèle indien de laïcité, permet à l'État d'intervenir dans les affaires religieuses au nom de la garantie de l'égalité de traitement entre celles-ci. Ça comprend des interventions en matière de droit civil, par exemple, le mariage, le divorce, etc. Le rôle de l'État est de garantir une égalité de traitement des religions. Mais comme certaines religions ont des membres qui, par ailleurs, ont d'autres besoins particuliers, notamment les musulmans qui comptent parmi la population la plus pauvre en Inde, l'autre camp peut assez aisément cibler l'État contre ce qu'il pense être une politique d'accommodation des minorités. Et donc, cette conception de la laïcité crée un espace où les membres du groupe majoritaire, les hindous, peuvent accuser l'État de favoriser les minorités religieuses qui, par ailleurs, objectivement, ont davantage besoin de soutien de l'État que les membres de la majorité. Et comme les musulmans sont la première minorité en Inde, ils sont aussi le groupe de communautés les plus défavorisées socio-économiquement parlant. Et donc, ça crée les conditions aussi d'une montée de l'intolérance religieuse qui s'accompagne d'une contestation croissante du principe de la laïcité. Et ce qu'on voit en Inde et ce qu'on voit dans d'autres pays de par le monde, y compris en France, la laïcité devient un vecteur de division, devient un vecteur de polarisation de la société entre, d'une part, les partisans d'une Inde hindoue, qui est une idée qui est matinée de haine anti-minorité, et les partisans libéraux d'une Inde laïque qui se méfient de toutes les religions. Comme en France, au lieu d'être un mécanisme pragmatique de coexistence des religions dans la démocratie, la laïcité devient une valeur que l'on se jette à la figure pour imposer son propre modèle de société. Et lorsque les nationalistes hindous sont au pouvoir, ils peuvent vider cette notion de toute substance, non pas simplement en persécutant les minorités, mais en les ignorant tout simplement, en les marginalisant davantage.
Ah, mais justement, la République indienne a forcé l'admiration par sa capacité de faire tenir ensemble une société, une nation extraordinairement diverse, avec ses 2000 castes, 8 principales religions, une quinzaine de langues parlées et encore plus de dialectes. En même temps, il y a toujours eu des conflits identitaires en Inde. On pense notamment à la région du Cachemire, à majorité musulmane, ou au Punjab avec les insurrections sikhs dans les années 1980, plus récemment les violences dans l'État d'Assam contre les populations musulmanes. Diriez-vous qu'aujourd'hui, il y a aussi une détérioration de la situation identitaire, de l'intolérance religieuse ethnique? Et si oui, quelles sont les causes et les conséquences de cette détérioration? Ouais.
Non, vous avez parfaitement raison en disant que ce sont des questions qui sont fort anciennes. La raison pour laquelle l'Inde a un modèle libéral, laïque, c'est parce que l'Inde est née dans un contexte de violence intercommunautaire extraordinaire. Et donc, ce sont des questions anciennes. Et comme toujours, évidemment, il n'y a pas un seul facteur de détérioration, mais le facteur principal de changement, c'est la montée au pouvoir des nationalistes hindous en 2014, sur une vague de mobilisation nationaliste, ethnique et religieuse. Et donc, ces nationalistes hindous incluent le parti au pouvoir, le BJP, mais aussi de nombreuses organisations de société civile actives sur le terrain, certaines depuis près de 100 ans, notamment le RSS, qui est une milice hindoue qui compte des millions de membres répartis sur l'ensemble du territoire, actifs dans toutes sortes de domaines, y compris les services sociaux, là où l'État est faible ou est absent. Et ces organisations défendent une vision de l'Inde hindoue, où les membres de la communauté majoritaire disposent de davantage de droits et de privilèges que les minorités. Pour faire simple, ils font la promotion d'un modèle de démocratie que l'on appelle démocratie ethnique, où le groupe majoritaire dispose de davantage de droits que les autres. C'est le modèle israélien, défini comme État juif, où les minorités religieuses sont reléguées à un statut de citoyen de second rang. Et ces idées sont présentes en Inde depuis près d'un siècle. Et d'ailleurs, ces idées n'ont pas fondamentalement changé depuis tout ce temps. Et depuis 2014, pour la première fois de leur histoire, ils sont au pouvoir, au centre, au gouvernement fédéral, avec une majorité simple au Parlement. À partir de 2013-2014, on a vu en Inde une forte croissance d'actes de violence contre des musulmans ou contre des dalits, des membres de très basse caste. Ces violences sont généralement perpétrées par des milices locales sur un mode de vigilantisme qui se réclame du nationalisme hindou. Mais après les élections plus récentes de 2019, le BJP est passé à la vitesse supérieure en faisant passer un nombre de lois qui transforment en profondeur la fabrique démocratique et laïque de l'État indien. Deux exemples. Le premier, vous avez évoqué le Cachemire, ils ont révoqué le statut spécial de cet État, le seul État de l'Inde à majorité musulmane. Cette région est maintenant complètement sous le contrôle à la fois de Delhi et de l'armée. Leur assemblée régionale a été dissoute, cela veut dire pas d'élection régionale, plus de démocratie littéralement. Le BJP a également fait voter une loi qui vise à lutter contre l'immigration illégale, mais qui revient à labelliser des millions de personnes comme citoyens douteux, leur demandant de prouver leur nationalité. Et comme il s'avère que de nombreux hindous ne sont pas à même de prouver leur citoyenneté, parce que tout le monde en Inde n'a pas un certificat de naissance, le gouvernement a fait passer une autre loi qui permet aux non-musulmans qui ne peuvent pas prouver leur nationalité indienne de regagner leur nationalité par une voie rapide, mais en excluant les musulmans. Et ce faisant, pour la première fois, ils introduisent un critère religieux pour l'accès à la nationalité. Ce que le BJP fait aussi, c'est qu'il exclut les musulmans de toute représentation politique. Au cours du dernier cycle électoral, les dernières élections et toutes les élections régionales, ils n'ont nommé à peine une dizaine de candidats musulmans sur plus de 3500 candidats et aucun d'entre eux n'a été élu. Et donc, tout ceci envoie des signaux aussi à la base du parti, à cette grande famille, à cette base sociologique de nationalistes hindous qui se sont incités à passer à l'action. Et la faiblesse des institutions envoie par ailleurs le signal que toute action à l'encontre des minorités bénéficiera d'une certaine immunité, qu'il n'y aura pas de poursuite, qu'il n'y aura pas... Participer à des violences interreligieuses en Inde, c'est une activité sans risque d'une certaine manière, puisque... ils savent qu'un minimum, l'État regardera de côté.
Vous l'avez dit, le mouvement nationaliste est présent et important depuis longtemps, mais pendant la plus longue partie de l'histoire de la République indienne, c'est le parti du Congrès qui était au pouvoir. Qu'est-ce qui explique le succès du BJP et singulièrement de son chef, Narendra Modi, et une forme aussi de radicalisation peut-être de son programme? Qu'est-ce qui explique ce succès et ce maintien au pouvoir depuis 2014?
Les nationalistes hindous, comme des bons nationalistes inspirés des théories européennes des années 30, faisaient toujours primer le collectif sur l'individu. Et donc, tout au long de son histoire, le BJP a toujours manqué de grands leaders populaires qui pouvaient incarner le mouvement et le porter au-delà de la base qu'elle occupe au sein de la société. Et l'émergence de Modi, c'est l'émergence à la fois d'une grande figure hindoue, mais aussi d'une grande figure nationaliste et populiste. Quelqu'un qui cherche à incarner en même temps la nation et en même temps être une figure de proue pour les communautés hindoues. Et donc, c'est une figure politique qui joue sur de nombreux registres simultanément. Le ministre en chef d'un État qui a enregistré une forte croissance pendant ses années de règne dans l'État du Gujarat, une certaine image d'intégrité, un discours anti-élite issu de son statut de leader régional, des origines, donc le mythe d'origine modeste aussi qu'il vend à ses électeurs, mais aussi une figure assez autoritaire, nationaliste, défenseur farouche de la population, du territoire indien, tenant des discours durs contre les voisins de l'Inde et évidemment notamment le Pakistan, et en même temps l'incarnation d'une espèce de figure moderne de prince ou de roi hindou dont on voit des manifestations au travers de la communication dont il inonde l'espace public. Juste pour donner un exemple, il y a quelques mois, il participait à l'inauguration d'un temple sur un site très disputé à Ayodhya, qui était le centre de mobilisation des nationalistes hindous pendant des décennies. Et au cours de cette cérémonie, il reçoit d'un prêtre une couronne d'argent dans une cérémonie qui ressemble à une cérémonie de couronnement d'un roi hindou évoquant l'Antiquité. Il incarne cette figure héroïque dont le culte de la personnalité évoque davantage les dictateurs d'Asie centrale ou de Turquie que les démocrates un petit peu rébarbatifs de Belgique ou du Québec. Et il est à la tête d'un parti qui cherche à gouverner l'Inde sans partage. Il ne s'embarrasse pas d'alliés, il mine les institutions, il fait pression sur les aides, sur les médias, sur les activistes, sur les militants de droits de l'homme. Alors, il ne le fait pas lui-même, évidemment, mais il dispose aujourd'hui d'un parti-État capable de faire pression sur les institutions, sur les individus, et pas toujours les plus puissants. Il y a quelques semaines, une jeune étudiante à Bangalore de 20 ans, Disha Ravi, c'est une participante au mouvement mondial de Greta Thunberg sur le changement climatique, a été mise en détention pendant une dizaine de jours sous accusation de sédition et de conspiration suite à un tweet de l'activiste suédoise au sujet des manifestations de fermiers en Inde. Alors ça, évidemment, ça ne projette pas exactement l'image d'un État fort qui ne craint pas la critique, mais ça crée l'image d'un pouvoir assez omniscient qui peut s'exercer sur pratiquement n'importe quel citoyen.
Alors, vous évoquez à l'instant les manifestations de fermiers, Gilles Vernier. J'aimerais qu'on en parle un instant parce que comme beaucoup de nationalistes et de populistes, Modi semble aussi être ultra-libéral sur le plan économique. Et depuis quelques mois, il y a des manifestations de fermiers pour s'opposer à la réforme du secteur agricole, du secteur agraire. Pouvez-vous nous expliquer un peu quel est l'enjeu principal de ces manifestations et ont-elles des chances d'aboutir à quelque chose?
Oui, ils sont des milliers de paysans venant des États du Punjab, de l'Haryana, de l'Uttar Pradesh qui littéralement campent depuis plus de 6 mois aux alentours de Delhi, bloquant les principales artères. Delhi étant la capitale. Ils protestent contre des lois qui, pour faire court, relèvent l'État de ses responsabilités en matière de contrôle des prix des denrées agricoles et laissent le soin au marché de fixer au fond les revenus des paysans. Mais c'est une crise qui, bien entendu, se manifeste à un moment particulier, un moment de crise économique, de ralentissement de croissance, mais dont l'origine va bien au-delà de la question de ces lois, qui par ailleurs ont été passées de force au Parlement. Pour les fermiers, il s'agit vraiment d'une crise à la fois existentielle, identitaire. L'agriculture en Inde occupe plus de 60% de la force de travail, mais représente moins de 13% du revenu national, contre 50% il y a 40-50 ans. L'agriculture en Inde est très morcelée, en petites propriétés. Elle vit une crise structurelle, amplifiée par le ralentissement récent de la croissance économique indienne. Et ça fait un moment que l'économie indienne détruit plus d'emplois qu'elle n'en crée. Les dividendes de l'agriculture se réduisent d'année en année, les coûts de production augmentent, une croissance faible qui ne crée pas d'emplois n'offre pas d'alternative à tous ceux qui souhaitent quitter l'agriculture. La réponse de l'État, la réponse du gouvernement, consiste à dire que l'État se retire en partie du jeu et laisse le secteur privé, le marché, intervenir comme nouvel intermédiaire entre fermiers et consommateurs. On peut penser que développer l'agro-business fait sens dans un pays aussi large que l'Inde, mais c'est une pratique qui fait sens dans des pays où 3% de la population travaille dans l'agriculture, mais pas 60%. Et donc, les fermiers ont peur, à juste titre, de se retrouver à la merci de grands groupes puissants, sans recours possible. Ils craignent la perte, et à raison, la perte de la protection de l'État. Et évidemment, aujourd'hui, tout est amplifié à la fois par la crise économique, qui frappe l'Inde depuis quelques années maintenant, mais aussi évidemment la crise sanitaire qui aggrave tout d'une certaine manière.
En terminant, un mot, Gilles Vernier, sur la pandémie de COVID-19. Nous avions reçu au Cerium de manière virtuelle au tout début de la pandémie en avril 2020 pour parler de la situation en Inde et vous nous aviez expliqué les mesures extrêmement strictes de confinement qui avaient été mise en œuvre par le gouvernement Modi, avec toutes les conséquences sociales, notamment, que cela impliquait. L'Inde s'est vantée pendant un certain temps d'avoir échappé au pire de la pandémie, mais depuis quelques semaines, les cas ont drastiquement augmenté, jusqu'à dépasser, je crois, le seuil de 120 000 personnes contaminées par jour. Comment est-ce que le gouvernement, aujourd'hui, en avril 2021, gère-t-il la crise sanitaire en Inde?
L'Inde a enregistré hier plus de 160 000 nouveaux cas, ce qui est un record. Et la courbe, si on regarde la courbe des nouvelles infections jour par jour, elle est pratiquement verticale. Il s'agit pour l'essentiel d'un nouveau variant, plus agressif, davantage transmissible et qui affecte davantage les moins de 45 ans que précédemment. Donc ça explique pourquoi ça se diffuse de manière aussi rapide. Évidemment, comme dans d'autres pays, ça se combine à un relâchement assez généralisé des efforts suite à la décrue des cas des mois précédents et ça explique aussi la force de cette seconde vague. Dans une ville comme Bombay, par exemple, le taux de positivité des tests touche les 25%, ce qui est absolument énorme. Mais ce qui m'inquiète, c'est que l'Inde ne semble pas mieux préparée à faire face à cette deuxième vague que la précédente l'année dernière. L'Inde n'a pas acheté suffisamment de vaccins. L'Inde est actuellement en pénurie de vaccins, ce qui est profondément ironique quand on pense que l'Inde est le premier producteur au monde de vaccins contre le Covid. Le système de santé est à nouveau au bord de la saturation, avec un personnel hospitalier complètement éreinté par l'année qui vient de s'écouler. L'Inde, aujourd'hui, décide d'imposer des restrictions sur l'exportation de certains médicaments utilisés en traitement du Covid, notamment le Remdesivir, mais ça va poser des problèmes pour les pays qui importent ces médicaments. Et une des sources du problème que j'avais déjà identifié l'année dernière et qui malheureusement, s'est avéré juste et se vérifie une fois encore, tient au caractère hyper centralisé de la réponse à la crise. Le gouvernement central édicte des règles, s'embrouille avec les gouvernements régionaux qui cherchent à répondre à leur propre urgence. L'État de Delhi, il y a quelques jours, s'est vu retirer des compétences en pleine urgence sanitaire. L'État du Maharashtra, qui est le plus affecté par la seconde vague, n'a pas été autorisé à faire des vaccinations de personnes âgées en porte-à-porte parce que le gouvernement central n'avait pas édicté de règles sur cette question. Et donc l'Inde fédérale souffre d'un grave problème de centralisme politique. Et au même moment, le Premier ministre est en campagne électorale dans 4 grands États de l'Inde, dans le sud et dans l'est. Son parti organise des rallyes qui rassemblent parfois des centaines de milliers de personnes amassées dans des plaines. Avril est aussi une période de festival où des centaines de milliers de pèlerins sont actuellement amassés au bord du Gange à Haridwar pour la Kumbh Mela, un grand festival hindou, défiant absolument tout sens commun. Les responsables politiques locaux, tous appartenant au BJP, ont décrété que rien ne pourrait empêcher les pèlerins de se rassembler. Et d'ici quelques jours, à la fin du festival, ces milliers et milliers de personnes repartiront dans leurs états et villages d'origine, répandant ce nouveau variant dans des régions où les systèmes de santé publique sont inexistants. Mais au même moment, les mouvements des musulmans à Delhi sont traqués par la police, limités aux alentours des mosquées. Et une fois encore, les nationalistes hindous utilisent une crise sanitaire pour cibler et stigmatiser la minorité musulmane. Et comme l'année dernière, des gouvernements maintenant envisagent de mettre en place à nouveau des confinements durs. Et cette fois-ci, par anticipation, on voit déjà des milliers de migrants, de travailleurs migrants qui prennent leur disposition pour rentrer dans leur village pour éviter de se faire jeter à la rue littéralement comme l'année dernière, où des millions de personnes ont été forcées de rentrer chez eux à pied, couvrant parfois des milliers de kilomètres. Vu de Delhi, on a un peu l'impression que les pouvoirs publics n'ont pas appris grand-chose de la crise précédente. Et quand on a au pouvoir un national populiste du type de Narendra Modi, qui fait foin de toute crise afin de pouvoir personnel et afin électoraliste, cela empêche des services de l'État, malgré tout dédiés à aider la population, à faire leur travail correctement. Et donc je suis très pessimiste pour les semaines et mois qui viennent.
À vous écouter, il va falloir beaucoup de courage à l'Inde et aux Indiens. On vous en souhaite également, Gilles Vernier. Merci d'avoir été parmi nous pour cette émission sur l'Inde de crise en crise. Un grand merci également à l'équipe technique, aux recherchistes et à nos partenaires, le Cerium, l'Agence France Presse et Savoir Média, qui nous permettent de faire quelques instants un arrêt sur le monde. À très bientôt.